Les échos du Grand Saint-Barthélemy, bonjour à toutes et à tous de nous écouter aujourd'hui le 9 septembre en direct au sein du comité Mamega. Exceptionnellement, nous allons parler d'une thématique que Lily va vous annoncer à l'instant. Et je vous invite d'aller sur le vivreensemble.org du comité Mamega et vous allez voir les actions qu'on fait au quotidien avec l'ensemble des partenaires associatif du Grand Saint-Barthélemy. Pour ceux qui ne connaissent pas le Grand Saint-Barthélemy, il est constitué de plusieurs quartiers. Ça part des Flamands jusqu'à Fontvert. Ça représente pratiquement 14 000 à 15 000 habitants. Voilà, je donne la parole à Lily. Bonne émission.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Radio Galère. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et le thème de l'émission est... Quatrième vague, les quartiers populaires de Marseille et l'Outre-mer sont-ils confrontés à une problématique similaire quant au taux d'incidence et à la vaccination ? Nous remercions nos invités pour leur présence et le temps qu'ils nous accorderont aujourd'hui. Nous avons avec nous donc Yazid Attala, qu'on ne présente plus. Parce que il me semble que ça fait au moins 3 ou 4 émissions que tu es avec nous autour du thème du Covid.
Bonjour. Oui, ça fait la quatrième.
Quatrième émission. Aujourd'hui. Anne-Marie Tagawa, administratrice du centre social L'Agora. Et Pierre Lézot, qui a de multiples casquettes. Alors, la casquette d'aujourd'hui, Pierre ?
Multiples casquettes, j'en ai plus guère besoin. Hein. Non, c'est Conseil citoyen 13-14 centre, c'est-à-dire tout le Grand Saint-Barthélemy et le parc au Corot est parti de Malpassé.
Donc, nous sommes aujourd'hui en direct des locaux du comité Mamega. Vous pouvez nous écouter sur les ondes de Radio Galère au 88.4 de la bande FM et sur le canal 8C du réseau numérique en direct du local comité Mamega que j'ai déjà dit. Je sais pas. Nous remercions le ZEF de nous avoir accueillis lors de notre dernière émission le 22 juillet, au cours de laquelle nous avons reçu les rappeurs marseillais du Troisième Œil, Mombi et Boss One, et également Rania Youm et Gornadio, qui sont respectivement présidents et vice-président de l'association à la Fou. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de Boss One et de cette émission-là ? Puisque à l'heure actuelle, aux Comores, il y a des mouvements de rétention de citoyens franco-comoriens parce qu'ils luttent afin de revendiquer un état de droit. Et donc, sont raptés, entre guillemets, des journalistes et ils sont également expulsés. Voilà. On fait un clin d'œil à Karima Berich, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais j'espère qu'elle nous écoute. Vous pouvez nous contacter au 07 49 53 26 38 et nous allons faire une première pause musicale avec un morceau de Léa Galva, Poutoussa qui partit, et qui est un morceau à l'honneur, qui rend hommage aux gens qui sont partis, tout simplement.
Encore, tout ça y'a qui t'es pas nous, c'est pleurer, nous j'appellerai.
Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes encore en direct des Échos du Grand Saint-Barthélemy sur Radio Galère. Donc là, je vais m'adresser à l'un de nos invités, Yazid Atala, président de l'association 7, Santé et Environnement pour tous, une association qui mène campagne de prévention contre le Covid et qui mène des actions de vaccination, contribuant ainsi à sauver des vies. Nous disons bien sauver des vies au regard du nombre de victimes de ce virus et de son variant. Yazid, peux-tu compléter ces informations ?
Déjà, merci de votre invitation. C'est toujours un plaisir que de venir chez vous. C'est important de profiter de cette antenne pour pouvoir donner de l'information à une population qui souffre soit de désinformation, soit de manque d'information. Bon, 7, on continue dans la lignée de ce que nous avions fait dès le mois de mars 2020, c'est-à-dire d'accompagner les personnes autour de la thématique Covid, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que dans ces secteurs, on souffre de plusieurs fractures, la précarité, la fracture numérique, et la fracture médicale. Et cette fracture médicale fait que les gens se retrouvent isolés, seuls, sans traitement. Et donc, on a accompagné les personnes qui étaient atteintes du Covid à l'aide au confinement. Donc, ça allait en apporter le couffin, en allant même jusqu'à apporter de l'aide médicale. Actuellement, on est quand même sur une recrudescence des cas Covid. Et là, je voudrais profiter de votre onde pour alerter un peu plus les auditrices et les auditeurs que malheureusement, ça repart, ça reflambe. Après, les causes de cette remontée, on pourra en discuter tout à l'heure. En tout cas, nous, on continue à accompagner, on continue à nouer des partenariats avec la mairie, la PHM, le bataillon des marins-pompiers, les associations qui sont pour nous très très importantes, que ce soit les centres sociaux ou les différentes associations qui sont dans le territoire, pour faire passer l'information, déjà des gestes barrières, maintenir une distanciation sociale, le masque, le gel hydroalcoolique. Il ne faut pas oublier que s'il y a des personnes qui meurent et s'il y a des personnes qui sont infectées, c'est qu'il y a du virus. Et deuxièmement, passer cette information autour de la vaccination. On entend dire tout et surtout n'importe quoi autour du vaccin. Il est important de rétablir l'échelle des vérités, la connaissance, tout en étant modeste, le niveau de connaissance que nous avons actuellement, mais aussi éviter quand même de dire des énormités, des inepties en matière vaccinale et en matière d'accès au vaccin.
Justement, quand tu parlais de désinformation ou mésinformation sur le territoire, Anne-Marie, il me semble que tu as eu des témoignages. Est-ce que tu peux nous faire part un petit peu de ce qui se dit sur le territoire ?
Sur tout le territoire, je ne sais pas, mais en tous les cas, autour de l'environnement, que ce soit des personnes qui fréquentent le centre social ou des personnes qui sont membres du groupe de veille, du coup, j'en ai profité avant l'émission pour sonder un peu, sachant déjà, pour certaines d'entre elles, les résistances qu'il y avait par rapport aux vaccinations. Et en fait, il ressort beaucoup ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire pour certaines, c'est vraiment le manque d'informations précises et par rapport aux craintes. C'est-à-dire, ce vaccin, ce qu'on entend beaucoup d'ailleurs aussi sur les plateaux télé, ce vaccin, d'où il sort ? Finalement, il n'y a jamais eu un vaccin aussi rapide. Donc finalement, si c'est comme ça, c'est qu'il ne doit pas être bon. Et on va avoir des effets secondaires qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui. Il y a ce premier côté. Et ensuite, il y a fortement quand même le côté qu'on appelle aujourd'hui complotiste, mais ça englobe beaucoup, beaucoup de gens, c'est-à-dire finalement, c'est pas aussi important que ça, le virus, les morts, etc. Et on est en train de nous en mettre plein les oreilles et plein la vue pour nous éviter de penser à autre chose. Donc, il faut pas croire ce qu'on nous dit. Et ça, à titre personnel, je me dis qu'en plus, ce qui se passe depuis le début avec l'arrivée du Covid, c'est qu'il y a eu tellement d'informations paradoxales ou contradictoires que ça contribue aussi à développer ce type de position. Voilà. Et il y a des personnes qui sont vraiment très, très ancrées, qui n'ont pas souhaité, pas pu ou pas souhaité venir à l'émission aujourd'hui, mais qui, en tous les cas, résistent beaucoup et communiquent énormément. Alors c'est ça où moi, ça me questionne, c'est que je me dis si des militants associatifs, des gens qui sont engagés, contribuent à ce type d'arguments. C'est vachement important qu'on refasse ce boulot à la base pour convaincre les gens quand c'est possible. S'il y en a que c'est possible et d'autres pour lesquels ça l'est moins. Voilà. Donc sur ces arguments-là, je suppose que vous êtes confrontés aux mêmes choses au niveau de l'association et qu'est-ce que c'est les arguments que vous développez du coup et qu'on peut développer.
Alors très, très simplement pour répondre un peu à ta question, c'est nous on a adopté une stratégie d'aller vers la population et d'être humble très simplement. On est quand même sur une pandémie qui est assez unique à l'échelle mondiale. Elle a quand même bloqué un système économique, bloqué des échanges internationaux. Et on apprend en marchant. Et effectivement, sur la thématique du Covid, on a appris au fur et à mesure, au fil de l'eau. Par contre, sur la vaccination, là où je m'inscris en faux par rapport aux personnes qui véhiculent des thèses complotistes ou qui déforment les propos, c'est que sur cette thématique de la vaccination, quel que soit le vaccin, que ce soit un vaccin classique ou le vaccin ARN, les deux techniques sont connues depuis des années et des années. Il suffit simplement, et c'est ce qu'on fait nous dans le cadre de nos campagnes vaccinales, une campagne de vaccination qu'on fait au pied d'immeuble. La semaine dernière, nous étions dans la cité Herbel parce qu'on doit couvrir du 9e au 16e. Et depuis peu, mandaté par la préfecture, par la préfète à l'égalité des chances, on doit couvrir tous les QPV. Ce que nous faisons en amont, c'est que nous discutons avec les personnes, parce qu'il faut libérer la parole. Les personnes issues de ces territoires, ce ne sont pas des antivax primaires. Ce ne sont pas des gens qui sont contre le vaccin parce que pour eux, ils en font un dogme. Non, non. Ce sont des gens qui ont besoin d'informations et ont besoin d'explications. Ils sont en capacité de comprendre, mais il faut leur apporter cette information. Et ce que nous faisons, nos ateliers, en fait, ils sont sur la base d'un atelier de SVT, très simplement. Ce que c'est qu'un vaccin, qui l'a développé. On part de Pasteur et on remonte jusqu'à des nouvelles techniques, et notamment l'ARN qui est certes récente, au regard de l'histoire, mais qui est quand même une technique qu'on maîtrise. Et puis par la suite, on fait parler des gens qui ont été vaccinés et qui, depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois, n'ont pas développé d'effets secondaires. Alors on nous parle d'effets secondaires sur du long terme. Mais ça, j'allais vous dire, qui peut prévenir l'avenir? Quel que soit l'aliment, quel que soit l'habitat, quel que soit l'endroit dans lequel on vit, on n'est pas en capacité de prévenir les effets secondaires sur du long terme. Concernant la vaccination, les effets secondaires que nous sommes en capacité, c'est des effets immédiats. Soit on fait une réaction, soit on ne fait pas. Un vaccin, il y a 2 options. Soit il est efficace, soit il est inefficace. En tout cas, les effets secondaires sur le long terme, les études qui ont été faites sur les différents types de vaccins, dont le vaccin ARN, ont montré qu'il n'y avait pas d'effets secondaires. Et en ce qui concerne le volume, on est quand même sur plus de 3 milliards de doses qui ont été injectées à l'échelle mondiale. Sur les 3 milliards de doses, on a eu à peu près une 40 000 d'effets secondaires. À l'échelle internationale, à l'échelle de 3 milliards, c'est peanuts. Effectivement, 40 000, c'est 40 000 personnes qui ont développé des effets secondaires pour certaines qui sont mortes. Mais il faut rentrer dans les études et voir l'état de la personne au moment de la vaccination. Ce qu'on peut se dire actuellement, c'est que les 3 millions de morts du Covid, c'est réel, c'est pas des fake news. Le vaccin, sauf preuve du contraire, il ne tue pas. Le Covid tue. Il y a 3 millions de personnes qui sont mortes. À l'échelle de la France, on doit être à plus de 150 ou 120 000 personnes qui sont décédées. Donc encore une fois, on ne peut pas dire ou se faire écho de thèses qui sont totalement fallacieuses et trompeuses. Ensuite, en ce qui concerne la vaccination, bien sûr qu'il y a des interrogations, bien sûr qu'il y a des éléments à apporter, des éléments d'éclairage. Ce que tu disais à juste titre, Anne-Marie, sur les éléments contradictoires qui sont venus de l'État, au plus sommet de l'État. Un coup, il faut porter le masque, un coup, il ne faut pas porter le masque. Il y a eu une communication qui a été très, très mal engagée. Moi, pour ma part, je suis libre de parole. Je ne suis pas le porte-parole de qui que ce soit et je peux parler. Et je suis le porte-parole des personnes qui vivent au quotidien cette notion de Covid et qui souffrent. Là, oui. Là, effectivement, je peux parler du quotidien des personnes qui ont été touchées par la Covid et qui souffrent et qui ont du mal à s'en sortir. Et souvent, lorsqu'on a des personnes qui sont atteintes du Covid, ils se disent « si seulement j'avais su ». Si seulement j'avais su. Parce qu'effectivement, on n'est pas de manière égalitaire sur une atteinte. C'est une maladie, elle touche de manière totalement inégalitaire les personnes. Elle peut affecter une personne jeune jusqu'à, et il y en a malheureusement dans ce secteur qui sont en réanimation, d'autres qui sont décédés et qui sont des sujets jeunes, comme elle peut être comme l'effet d'une grippette. C'est aléatoire. Est-ce qu'on veut jouer à la roulette russe avec nos proches? Est-ce qu'on veut jouer à la roulette russe avec des amis? Moi, pour ma part, non. Et donc, moi, j'ai vacciné mes parents dès les premières semaines de vaccination. Ils ne sont pas morts, ils sont toujours là.
Je crois que ce qui est posé fortement, c'est la question de la confiance. Nous qui sommes âgés, quand on a eu des vaccins, on n'a jamais posé la question « est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ?» On l'a fait sans réfléchir. Aujourd'hui, il y a quand même la question des réseaux sociaux, non, c'est ça qui est nouveau.
En fait, ce qu'il faut voir, c'est le bénéfice-risque. Ça, c'est le ratio en fait en médecine qu'on a systématiquement. Quel est le bénéfice et quel est le risque? Très concrètement, on a plus de bénéfices que de risques. Voilà, tout simplement. À titre individuel et à titre collectif. À titre collectif, si tout le monde se vaccine, On aura des effets secondaires minimes. Au même titre que le vaccin de la grippe protège de la grippe, mais n'empêche pas de mourir de la grippe, mais protège de développer des formes graves. Donc c'est ce bénéfice-là qu'il faut, en fonction de son état de santé, évaluer. Une personne âgée, elle aura plus de risques si elle contracte le Covid qu'un sujet jeune. Mais maintenant, un sujet jeune, il aura beaucoup plus possibilité de donner à un parent, à un proche parent, la Covid, même si pour lui, c'est des formes asymptomatiques. Je vous cite un petit exemple. On est intervenu sur un cluster dans le 13e auprès d'une grosse structure qui emploie plus de 150 personnes. On est intervenu avec nos médiatrices et nos médiateurs, on a installé nos dobarnums pour pouvoir tester 150 personnes sur 2 heures de temps. Sur les 150 personnes, on a découvert 6 personnes positives et totalement symptomatiques, qui ne le savaient pas. Sur les personnes qui travaillaient, il y avait des personnes qui avaient du diabète et d'autres, des maladies cardio-respiratoires. Imaginez-vous la contagiosité et le potentiel de contagiosité qu'a ces 6 personnes. À un moment donné, il faut qu'on puisse avoir des actions au plus près des habitants et leur faire comprendre l'intérêt de la vaccination.
Non, c'est sûr que la question de l'information est posée. Récemment, là, je ne sais pas si tout le monde a vu, je crois que c'était sur France 3, quelqu'un qui était à l'hôpital Nord, 35 ans, qui disait, bon, si j'avais su, non seulement je ne serais pas dans cet état-là, mais aussi ma femme n'aurait pas été touchée et mes enfants ne seraient pas chez les grands-parents, etc. Donc il y a peut-être ce bouche-à-oreille intime qui peut faire des choses.
Très concrètement, le sujet dont tu parles, c'est sur France 5 et on est intervenu sur l'émission C'est politique pour montrer notre action de vaccination au pied d'immeuble et à domicile des habitants. Ensuite, il y a 2 types de personnes. Nous, dans le cadre des actions que nous menons, il y a soit des personnes qui sont réfractaires. On peut essayer de leur expliquer jour et nuit, ils ne se feront pas vacciner et on n'arrivera pas à les convaincre. Bon, ceux-là, j'allais vous dire, malheureusement, qu'ils assument leur choix. Et puis après, vous avez des gens, par manque d'information ou par désinformation, qui n'ont pas accès ou par peur, aussi par crainte. Et c'est ces gens-là qu'on essaie de convaincre, c'est ces gens-là qu'on essaie d'aller voir. Encore une fois, dans nos campagnes, on n'est pas dans l'incitation vaccinale. On n'est pas dans l'injonction vaccinale. On est, dans l'explication, et puis après, on leur donne la possibilité de se faire vacciner. On lève tous les freins périphériques à la vaccination, dont la désinformation.
D'ailleurs, j'ai un témoignage de Farid ici présent, qui tient à remercier Loubna, car, par rapport à sa sœur, qui était très inquiète. Donc, elle allait se faire vacciner, et ça a permis aussi de lever les freins, comme tu disais, auprès de ses copines, qui ont bénéficié aussi, du coup, de votre action.
Merci, Loubna. Ouais. Je me permets d'intervenir parce que ma sœur qui a une Covid de long, qui était vachement angoissée quoi. Au quotidien, elle pleurait tout le temps, elle avait même des séances de kiné, et j'ai appelé Loubna qui l'a rassurée, et voilà, elle a fait sa dose avec ses copines, voilà, sa première dose. Voilà. Merci.
Ouais. Merci pour elle, juste une petite précision, la vie avec la Covid, c'est une vie de souffrance pendant les 15 jours et une vie d'angoisse. J'ai le témoignage, pas plus tard tout à l'heure, d'une personne, je suis jeune, de 32 ans, qui est sous assistance respiratoire. Donc voilà, c'est des réalités. Ça peut être une grippette, mais ça peut être une complication majeure.
Et maintenant, peut-être que nous allons parler un petit peu de la situation aux Outre-mer avec Pierrot.
Nous pourrons parler de l'Outre-mer, mais je crois qu'on n'a pas encore complètement cerné le problème tel qu'il se pose ici. Il faut quand même jeter un coup d'œil dans le rétro, dans la mesure où il faut se rappeler que les quartiers populaires ont toujours été abandonnés et toujours été à la remorque. Nous avons été à la remorque des masques. Nous avons été à la remorque des masques. On se souvient de certaines associations, quelques copains, copines qui se sont mises à la tâche pour faire des masques. Nous avons été, on sait quelque chose, nous avons été à la remorque quant au dépistage. À un moment donné, les dépistages n'arrivaient pas jusqu'ici. On a toujours un train de retard. Pour les antivax, la rumeur fait beaucoup de choses. J'ai regardé l'autre jour à la télé une bonne femme antivax qui avait sorti, la posologie du vaccin. Et commencer à lire, etc. Voici les effets secondaires, etc. Donc ce qu'on peut conseiller aux personnes qui ont peur des effets secondaires du vaccin, de lire la posologie de l'aspirine ou d'autres médicaments Et on verra bien quel est l'effet négatif de toutes ces choses-là. Donc là-dessus, il faut bien appuyer là-dessus. Donc pour les anti-vax, cette affaire d'effets secondaires, ça tombe et par les chiffres, et par la réalité même du vaccin. Troisièmement, le Covid tue. On en sait quelque chose ici sur le quartier. Notre ami Cid est parti parmi les premiers l'an passé, mort du Covid. À nos connaissances, il n'avait aucun antécédent. Il est mort après 2 mois de coma à l'hôpital Nord. Le Covid tue. Sur l'information, on parlait de la mauvaise communication des services de l'État. Mais cette mauvaise communication perdure toujours. Quand, à longueur de journée, on nous dit « Voyez ceux qui sont à l'hôpital, voici les personnes qui sont en train de mourir du vaccin, du Covid », ce sont des personnes non vaccinées. Mais qu'est-ce qu'on a à toujours mettre en conflit les vaccinés, les non vaccinés? Il suffit de dire qu'on meurt encore du Covid. Et pas besoin de dire, effectivement, il y aura toujours des vaccinés qui vont mourir du Covid. Donc on va rendre responsable, presque coupable, aux non-vaccinés de leur état de fait. Ils ne sont pas vaccinés par rapport à ça. Mais continuer à dire, c'est mettre la coupure dans les quartiers en disant, mais regardez, vaccinez-vous vite, parce que ceux qui meurent du Covid, ce sont ceux qui ne sont pas vaccinés. Et là, il y a une erreur fondamentale de communication, me semble-t-il. Donc, effectivement, il faut aller sur la voie vaccinale d'une manière tout à fait volontaire. Et enfin, on est en politique de la ville. La politique de la ville, c'est de mettre plus de moyens là où il n'y en a pas. Donc, normalement, les quartiers prioritaires auraient dû être à la pointe du combat, puisqu'il est censé, sur le domaine qui nous intéresse de la santé, y avoir beaucoup plus de moyens sur les quartiers prioritaires qu'ailleurs. Et là aussi, il y a un déficit d'action de l'État. La campagne aurait dû être beaucoup plus volontaire, aurait dû faire déplacer beaucoup plus de monde que ça, etc. On n'a pas besoin d'aller dans des endroits où il y a 80% de la population vaccinée. La politique de la ville, c'est la subsidiarité. C'est aller là où l'État est défaillant. L'État est défaillant en matière de santé. L'argent de la politique de la ville, surtout sur le volet santé, mais je poserai la question à la préfète en temps voulu. Qu'en avez-vous fait sur cette volonté d'aller sur la vaccination des gens de notre quartier?
Juste pour répondre à Pierrot, concernant les dispositifs qui ont existé dans nos territoires, notamment en matière de dépistage. Ils ont existé, malheureusement, dès le début, dès le mois de mars 2020. Il y avait deux dispositifs, un dans le 15e et un dans le 13e, qui étaient portés par notre asso, en partenariat avec Médecins Sans Frontières, de manière bénévole. Ça, c'est le premier point. On a quand même pu dépister, durant cette période, une période où il n'y avait pas de tests, 6000 personnes, et accompagner. Ensuite, sur la partie vaccination, effectivement, il y a eu un retard à l'allumage qui est indéniable. Il y a une dynamique qui n'a pas été prise. Effectivement, il y a des choix qui n'ont pas été forcément bien stratégiques. Mais là, depuis peu, il y a une volonté. Alors certes, au regard des chiffres, et c'est pour ça qu'il faut non pas culpabiliser les vaccinés et les non-vaccinés, mais il faut appeler un chat un chat. Actuellement, ce que nous avons en réanimation, 90% des personnes qui sont dans les trois réanimations, de l'hôpital européen, de l'hôpital Nord et de l'hôpital Latimone, ce sont des personnes issues de nos territoires. À un moment donné, il y a une réalité. Et cette réalité nous explose en pleine figure en nous disant que dans le 8e, on est à 68% de taux de vaccination et dans le 15e, on n'est qu'à 30%. Et quand on regarde les réanimations, ce sont des gens issus de ces territoires-là. Donc c'est vrai que, je suis d'accord avec toi, d'un point de vue communication, la communication qu'il culpabilise n'apporte pas. Mais à un moment donné, il y a des réalités qu'il faut qu'on puisse montrer, des chiffres qu'on puisse avancer pour dire aux gens « Attention, attention, les personnes qui sont actuellement en réanimation, ce sont des gens issus de ces territoires-là. » et en plus non vaccinés. Donc il faut à un moment donné leur avancer des chiffres pour leur donner une réalité qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne perçoivent pas. Et donc sur cette volonté-là, encore une fois, je ne suis pas le porte-parole de qui que ce soit, mais sur cette volonté-là d'essayer de pallier, c'est la volonté de tous. En partant des centres sociaux, des associations, des familles, et voire même des structures. Des structures médicales dans nos secteurs, il n'y en a pas ou pas beaucoup. Et on le sait. Ce qu'on disait tout à l'heure, à juste titre, le contrat de confiance. Ben, c'était qui ? C'était le médecin généraliste qui donnait cette possibilité de donner ce contrat de confiance. Quand on était jeune, on allait voir notre généraliste, il nous vaccinait, et on ne se posait pas la question. Parce qu'il y avait un contrat de confiance, il y avait une personne de confiance. Actuellement, vous avez moins de généralistes dans nos territoires. Forcément, moins d'offres médicales, moins de couverture médicale. Donc moins de personnes qui peuvent relayer cette information autour de la vaccination. Et vous avez aussi une population qui a été laissée à l'abandon depuis des années et des années. C'est indéniable. On ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Par contre, il y a aussi la responsabilité individuelle. Chacun est libre de se faire vacciner ou est libre d'aller chercher l'information. Et là, je me tourne vers les centres sociaux, je me tourne vers les associations pour leur dire « Soyez vous le lieu de rencontre pour qu'on puisse derrière donner ces informations. » Après, chacun souhaitera se faire vacciner ou pas. Mais là où je me dis quand même, c'est quand même criminel de la part des antivax, c'est que vous avez deux pays, trois, qui ont été frappés, si on compte les Antilles aussi, deux territoires qui ont été frappés par la Covid, mais fortement, que ce soit les Antilles, que ce soit l'Algérie, que ce soit la Tunisie. Et vous avez des gens dans ces territoires-là, et notamment en Algérie et en Tunisie, qui réclamaient de l'oxygène, qui réclamaient des soins, des gens à qui on refusait l'entrée. En France, heureusement, on n'est pas encore dans cet état-là. Vous avez la possibilité de vous faire vacciner, vous avez la possibilité de vous faire dépister à domicile, vous avez la possibilité de vous faire dépister en pied d'immeuble, vous avez la possibilité de vous faire dépister en allant faire vos courses, vous avez la possibilité de vous faire vacciner en allant faire vos courses. On a quand même la possibilité, dans différents endroits, de vous faire vacciner. Vous avez l'hôpital Laveyran, vous avez le Grand Littoral, vous avez la maison régionale de santé de Malpassé, vous avez nos équipes qui tournent et qui peuvent aller vacciner à domicile, donc vous avez multiples possibilités de vous faire vacciner. Après, il faut que les gens veuillent bien se faire vacciner. Nous, en tout cas, on leur donne la possibilité, l'information autour du vaccin, voire même le vaccin à domicile. Plus que ça, parce qu'on ne peut pas faire.
Ce chiffre-là de 90% des gens qui sont en détresse dans les hôpitaux, qui sont de ces quartiers, moi, je ne le connaissais pas. Et pourtant, je regarde les informations régulièrement. Comment c'est possible ?
C'est le professeur Jouve, président de la CME, donc le comité médical d'établissement, qui a avancé ce chiffre par voie de presse. Et puis on le rencontre parce qu'on a quand même des échanges régulièrement, qui nous a alertés et qui a alerté la préfecture, qui a alerté les services de l'État en leur disant « Attention, dans ces territoires-là, il y a un problème ». Effectivement, après peut-être que l'information est passée, parce que bon, on ne regarde pas l'information tous les jours, mais il y a eu quand même un sujet très récemment sur la fracture vaccinale dans les quartiers nord. Et c'est une fracture sociale. La fracture vaccinale que nous avons actuellement est juxtaposée à une fracture sociale. Et c'est là où c'est encore inacceptable, c'est de se dire que cette population-là cumule tous les tards, tous les maux.
Merci pour cette intervention, Yazid. On va lancer la deuxième respiration musicale.
Merci
avec
pour cette
le morceau Yazid.
On va... Dihi Fadou, un morceau comorien intitulé Coronavirus. Comorien intitulé Coronavirus.
Corona rimshinde, wanadamu jihifadhi, uhifadhi wa wasaya. Aye molambe, corona rimshinde, wanadamu jihifadhi, uhifadhi wa wasaya.
Anganje ritsini kane mihono. Mangadisi jive panzala metera
Tisa mweti kohowe usoni mwe mwana nyuho Dunya suya raniki wazo
Aye molambe koronari mshinde Mwanadamu jifadhi uhifadhi owasaya Aye molambe
koronari mshinde. Mwanadamu jihifadhi, uhifadhi o wasaya. Mihono narihoseha daima. Mutanyi ho bangazula muziani.
Wejiwona mlemevu bakihoda ho ni haho.
Donya suya raniki wazo. Aye molambe koronari mshinde. Mwanadamu jihifadhi, uhifadhi o wasaya. Aye molambe koronari mshinde. Mwanadamu jihifadhi, uhifadhi o wasaya.
Corona, le caravage de Dieu commence à frapper.
Rebonjour à tous, nous sommes toujours en direct des Échos du Grand Saint-Barthélemy. Donc nous avons avec nous Anne-Marie Tagawa, Yazid Attala et Pierre Lézot. Je voulais te poser une question, Yazid. Alors, le coronavirus, au cours de la première vague, on disait qu'il ne touchait pas les enfants. Ensuite, on nous a dit que les conséquences du coronavirus, ça avait été la maladie de Kawasaki et tout. Mais alors, du coup, est-ce que l'on en sait un petit peu plus ?
Alors, pour être très factuel et pour vous donner des chiffres, c'est vrai que ce nouveau variant, le variant Delta, malheureusement, touche les enfants et touche beaucoup les enfants. Donc, on a eu des beaucoup, de plus en plus d'enfants qui se font hospitaliser. Donc ça, c'est un fait nouveau et un fait qui nous inquiète. Il n'y a qu'à voir la fermeture des classes actuellement dans le département, qui est assez significative. On doit être aux alentours d'une soixantaine de classes qui sont fermées. Donc ça veut dire qu'il y a 60 classes où le variant a été détecté. Concernant les chiffres que nous avons, actuellement, il y a un taux de positivité chez les jeunes qui est entre l'ordre de 10 et 15%, qui est beaucoup plus important par rapport aux personnes âgées. Donc il y a une transmission qui est beaucoup plus rapide chez les sujets jeunes. Ça ne veut pas dire que ce sont des cas mortels. Ce sont des cas, ce sont des super transmetteurs du virus. Et ça nous a alertés dès cet été, en fait. Dès cet été, lorsque nous étions en appui des centres sociaux, des maisons pour tous, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des gamins de plus en plus qui étaient touchés. On a alerté immédiatement l'agence régionale de santé et on a corrélé nos chiffres que nous avions sur le terrain avec les hospitalisations. On s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation entre les gamins qui étaient hospitalisés, qui allaient parfois de 2 ans jusqu'à 13 ans, 14 ans, 15 ans. Donc il y a quand même un taux assez important. Alors je ne veux pas non plus tomber dans l'angoisse ou la sinistrose, mais c'est une réalité qu'il ne faut pas non plus nier.
Juste une petite précision. Tu dis qu'il y a donc de plus en plus de jeunes et d'enfants hospitalisés, mais en matière de qui font des cas graves.
Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, tant mieux, parce que c'est terrible d'avoir de perdre un enfant.
Avec de la fièvre, avec une pneumopathie.
Ils arrivent avec de la fièvre, des pneumopathies, ils arrivent avec des courbatures, une grosse, grosse fatigue, le nez qui coule, ça c'est pour les formes les plus graves, et puis après pour les formes les plus légères, c'est une fatigue et une fièvre.
Et tu nous parlais justement du virus, enfin du variant Delta, il y a eu également le variant Mu. Ces variants-là, alors par rapport au corona classique, entre guillemets, celui qui apparaît en 2019, est-ce qu'ils sont plus contagieux, plus dangereux ? Est-ce que...
Ils sont beaucoup plus contagieux, tout simplement, parce qu'ils touchent beaucoup plus de personnes, le taux d'incidence augmente, même si actuellement, on est quand même sur un taux de positivité qui est entre 7 et grand maximum 8. Donc on est quand même sur un taux relativement correct par rapport à ce qu'on a connu début juillet et début août. Donc la vaccination fait naître quand même beaucoup d'espoir sur la mutation du virus et sur la contagiosité. Maintenant, si j'ai un message à faire passer aux plus jeunes, c'est vous êtes peut-être en capacité de lutter contre le coronavirus, mais dites-vous qu'autour de vous, vous avez des personnes âgées, dites-vous qu'autour de vous, vous avez des personnes fragiles, dites-vous qu'autour de vous, quand même, vous avez des personnes que vous aimez et qui potentiellement peuvent le contracter. Donc faites attention, respectez les gestes barrières et n'hésitez pas à vous faire vacciner si vous avez la possibilité. En tout cas, vous avez les moyens de vous faire vacciner.
Au niveau des écoles, donc c'est la rentrée. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui sont faites pour la prévention, pour informer, notamment ce chiffre que tu as dit, de 90%, c'est vraiment qui m'a choqué.
Alors, 90% issus des quartiers populaires, mais c'est des sujets adultes, hein, c'est pas des sujets jeunes. Hein.
Non, mais justement, les formations, c'est les enfants qui
bah, c'est toujours les parents. C'est toujours délicat, quand même. L'éducation nationale, j'allais dire, c'est l'affaire des parents et de l'éducation nationale, souvent. Et c'est vrai que l'éducation nationale a leur propre système de médiateurs de lutte anti-Covid. Donc, ils ont leur propre fonctionnement. Nous, on n'intervient pas dans l'éducation nationale. Les enseignants, bah, ils ont cette liberté de parler avec leurs élèves ou pas de la vaccination, mais ils sont dans l'obligation quand même de faire savoir qu'il y a la possibilité de vacciner et de donner ces informations-là. Après, c'est toujours l'affaire de tous, la responsabilité de tous. Moi, en tant que parent, en tant que papa, quand j'ai mes enfants qui viennent, je leur demande quand même de se laver les mains et je leur demande aussi de me parler de ce que, bah, des craintes qu'ils ont autour du coronavirus. On a fait durant le premier confinement, au sortir du premier confinement, on a fait des séances avec des élèves, avec des enfants, pour qu'ils puissent nous matérialiser la perception qu'ils ont du coronavirus. Dans les dessins, c'est quand même assez révélateur. C'est quelque chose de noir, c'est quelque chose qui tue. Une gamine qui nous avait dessiné un cimetière avec une tombe, une autre qui nous avait dessiné un truc noir. Donc, ils ont une perception très très négative et très anxiogène. C'est sûr que c'est compliqué d'aborder cet élément-là, de discuter avec eux. Il faut avoir de la pédagogie vis-à-vis des enfants que moi, forcément, j'ai pas. Je suis pas enseignant, donc je me garderai de leur faire de leur donner des conseils. Néanmoins, nous sommes à disposition de tout le monde. Toutes les personnes qui souhaitent se faire vacciner, il y a une initiative qui est à signaler. Samedi prochain, autour de la maison de santé APHM des Égalades, de 9h à 17h, donc les gens qui souhaitent se faire vacciner pourront venir se faire vacciner. À la maison régionale de santé de Malpassé, dans le 13e, 13 rue Raymond de Martin, vous avez une permanence d'urgence tous les soirs, de 19h jusqu'à 2h du matin, et le week-end, vous pouvez vous faire vacciner. Ensuite, vous avez le Grand Littoral pour le 15e, vous avez l'hôpital Laveyran, donc vous avez la possibilité. J'incite vraiment les gens à se faire vacciner, car c'est important pour eux, pour leurs proches. Encore une fois, on parlait du bénéfice-risque. Bah, y a plus de risques à ne pas être vacciné que de l'être.
Oui, on se posera toujours la question de savoir qu'est-ce qu'on a manqué. Enfin, nous, société. Quand un enfant naît, enfin, dans les 3 premiers mois, il reçoit 11 vaccins. 11 vaccins. Et on n'a jamais eu le moindre problème, le moindre questionnement par rapport à ça. J'ai lu qu'au niveau de l'histoire, on s'était beaucoup interrogé sur le vaccin contre la polio, qui, au départ, avait causé pas mal de problèmes, pas mal de dégâts. Et c'est là que les anti-vaccins, j'allais presque dire idéologiques, hein, ont commencé à se poser des questions. Hein. Et bien c'était toujours le rapport bénéfice-risque. Donc on estimait que de se faire vacciner contre la polio, il y avait beaucoup plus de risques d'infirmité, etc., que de subalmadie. En tout cas, c'est le vaccin qui a éradiqué quand même. Ce sont quand même les vaccins qui éradiquent la plupart des maladies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les 11 vaccins obligatoires et puis ce vaccin contre le Covid? C'est vrai, il a été trouvé rapidement, mais lors de la première vague, il n'y avait personne qui n'aurait pas applaudi. Le vaccin était demandé dans les premiers mois parce que tout le monde était dans l'affolement tout à fait légitime. Tout le monde demandait, peut-être même les anti-vax, demandait à corps et à cri ce vaccin. Et puis une fois que ce vaccin est arrivé, on parle du manque de recul sur ce vaccin. Donc qu'est-ce qu'on a pu louper par rapport à ça, ou qu'est-ce qui a fait qu'on craigne beaucoup plus ce vaccin contre le Covid que les 11 autres?
Bah écoute, il y a eu un déficit de communication, ça c'est clair, dès le départ, des communications contradictoires qui ont alimenté en fait ces antivax. Ensuite, sur la technique, j'allais te dire, on n'est pas plus informé sur le vaccin de la grippe que sur les 11 autres vaccins. Les gens ne sont pas des experts, ne sont pas des savants, ils ne vont pas te dire que dans ce vaccin, contre l'hépatite A, l'hépatite B, il y a ça, ça. Non, simplement, il y a eu une suspicion dès le départ qui a été lancée. Ensuite, sur les antivax, bon, j'ai été par hasard, hein, tu sais, sur une manifestation, j'étais samedi dans le centre-ville. Les personnes que j'ai vues, ce ne sont pas des personnes issues de nos territoires. Ce ne sont pas des personnes issues des quartiers populaires. Mais par contre, des personnes qui sont en réanimation, oui. On peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans nos secteurs pour que des gens finissent en réanimation? Les antivax, ces personnes-là, ne finissent pas en réanimation, et tant mieux. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'ils finissent en réanimation. Ce n'est pas mon propos. Je dis simplement que dans nos secteurs, vous avez des personnes qui finissent en réanimation. Pourquoi ? Parce que quand vous vivez à plusieurs dans un appartement, la réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Vous avez des gens qui vivent à plusieurs dans un appartement. Vous avez un bâtiment, je suis en train de regarder la tour en face de moi, qui est une tour de 18 habitants. Il y a combien d'habitants dans cette tour ? Il doit y avoir entre 2 et 3 000 habitants qui vivent. Vous avez un cluster géant, il suffit qu'il y en ait un qui soit contaminé pour qu'il puisse toucher l'ascenseur et faire en sorte que ça se propage. La réalité, c'est que la pauvreté tue. Oui. La pauvreté tue, pourquoi ? Parce que vous avez un manque d'accès aux soins, parce que vous avez des conditions de vie qui sont totalement déplorables, et parce que quand vous devez, on est intervenu auprès d'une famille de réfugiés qui sont autour des Flamands, quand vous vivez à 12 dans un T3, expliquez-moi comment vous pouvez raisonnablement faire en sorte que votre voisin, votre sœur, votre cousine ne soit pas contaminé. Résultat des courses, 12 personnes ont été positives, avec une personne qui a fini en soins intensifs. Donc je veux bien, à la limite, qu'on manifeste, parce que oui, pourquoi pas, hein, il y a des questions de liberté publique, il y a des questions de liberté individuelle qui peuvent être mises sur le tapis. Moi, je suis pas sur ces éléments-là, c'est des éléments plutôt politiques. Moi, je suis sur des éléments sanitaires, sur des éléments sociaux sanitaires. Quand vous avez des personnes qui meurent, qui sont en réanimation et qui sont essentiellement de nos territoires, ça m'interpelle. Quand vous avez un manque de vaccination dans nos territoires, ça m'interpelle aussi. Quand vous avez un manque et un déficit de soins et d'offres médicales dans mon secteur, ça m'interpelle. Vous savez, moi j'aimerais bien que les habitants de nos secteurs puissent avoir accès à des naturopathes, puissent avoir accès à de la médecine douce, mais ils n'ont même pas accès à de la médecine tout court. Qu'on nous donne déjà l'égalité en matière d'accès aux soins, l'égalité en matière d'accès au logement, l'égalité, ne serait-ce que renouveler, par exemple, renouveler la fenêtre et l'air de votre maison. Une fois, une petite anecdote, j'avais un enfant qui venait, qui a consulté, qui faisait des bronchopathies en permanence. On ne comprenait pas pourquoi lui et ses frères faisaient ça. Lorsqu'on est arrivé chez lui, on s'est rendu compte qu'il était dans l'incapacité d'ouvrir la fenêtre, tout simplement parce qu'il y avait des lits superposés et ils étaient en suroccupation du logement. Alors je veux bien effectivement tout entendre, mais la pauvreté fait plus de dégâts pour l'instant. Preuve du contraire, la pauvreté tue. Ensuite, en ce qui concerne le discours des antivax, il se nourrit aussi des débats contradictoires dont certaines chaînes d'infos se nourrissent. Quand on fait venir des scientifiques de renom qui derrière mènent une petite joute verbale en disant « oui, non, non, oui, non », c'est sûr que les gens ne comprennent pas. Donc à un moment donné, il faudrait que les gens aux responsabilités, qu'elles soient intellectuelles ou même aux responsabilités, arrêtent de communiquer de manière contradictoire. Parce qu'à la fin des fins, c'est qui me souffre ? C'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Les quartiers nord est devenu la voiture balai, les quartiers populaires d'une manière générale, est devenu la voiture balai, malheureusement, de tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. On essaye de rattraper les gens, et on essaye encore une fois, et si je peux profiter, alors encore une fois, de communiquer autour des lieux de vaccination, parce que pour nous c'est important. Vous avez un site internet, vous pouvez y aller. On est prêt à discuter, on est prêt à échanger, on est prêt même à débattre avec des gens qui souhaiteront débattre. Et là, je tends la main à Anne-Marie. Hein, donc, on est prêt, nous, à discuter. On n'est pas des lobbyistes qui travaillons pour le compte d'un laboratoire ou quoi que ce soit. Moi, je veux tout simplement que mes amis, mes parents, j'ai été cette semaine à 3 enterrements. 3 enterrements, un à la Busserine, paix à son âme, et 2 autres enterrements dans les territoires. Ce n'étaient pas des antivax. C'était des personnes qui se sont posées des questions et qui n'ont pas trouvé de réponse. Ce n'étaient pas des personnes qui allaient manifester. Ce n'étaient pas des manifestants de la première heure contre la vaccination ou contre le pass sanitaire. C'était des gens qui voulaient vivre, tout simplement, et qui malheureusement ont été fauchés. Un de 69 ans, un autre de 56 ans. Il ne faut pas croire que ça touche que les personnes âgées, et notre un peu plus âgé de 89 ans. En tout cas, je adresse toutes mes condoléances aux familles concernées.
Oui, je crois qu'il faut continuer. Je sais que nous avons une diffusion mondiale par Internet et Radio Galère, mais je crois qu'il faut que nous continuions quand même à battre le pavé, ne serait-ce que de tirer quelques éléments de ce qu'a dit Yazid, sur les chiffres clés, sur les points d'attention, etc. je crois qu'il y a à poser ça, à mettre ça sur la table et matière à débat, dans les centres sociaux et où l'on pourra.
Yazid, je ne veux pas abuser de ta gentillesse, je sais que tu dois y aller, mais est-ce que tu peux nous donner deux mots sur le vaccin ? Moi, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas d'alternative déjà à la vaccination. Mais alors, comment est-ce qu'il fonctionne, ce vaccin ARNm ?
Très simplement, vous avez maintenant depuis peu des gens qui vous disent « je vais attendre le vaccin classique, le vaccin de Pasteur ». Bon, j'allais dire, ils peuvent. Hein.
Mais les vaccins classiques existent déjà.
Exactement. Alors, vous avez deux types de vaccination, en fait. Vous avez les vaccins ARN, en fait, qui prennent... C'est une technique qui est connue depuis un bon petit moment, en fait, une technique révolutionnaire, qui révolutionne la thérapie, notamment dans certains secteurs de la cancérologie aussi. En fait, on prend une ADN, on bloque une ARN, en fait, c'est un élément de l'ADN, et puis à partir de là, on va la dupliquer. Donc, on va faire une photocopie et la transmettre aux marqueurs, aux cellules qui sont censées défendre notre corps. Donc là, on donne ce marqueur-là, ce code-barre, directement, mais on n'altère pas le produit. Donc, grosso modo, si vous avez une bouteille d'eau, ça sera toujours de l'eau. Donc, ça ne va pas altérer le produit. L'ADN ne va pas être altéré. Il n'y a pas de risque de cancer. On va simplement prendre le code-barre, faire la photocopie et le donner directement aux défenses que sont nos cellules. Ça, c'est pour les vaccins ARN. Il y en a deux principalement, le Moderna et le Pfizer. Le Pfizer, il a des conditions de conditionnement qui sont un peu plus drastiques, parce qu'il faut avoir un réfrigérateur à basse température. Et les vaccins classiques, que sont l'AstraZeneca, que sont le Johnson, donc tous les autres vaccins classiques, eh ben on prend un bout du virus, on le met dans une couche dans laquelle on va le rendre totalement inoffensif, et on va le donner à nos cellules pour lui dire, voilà, ça, dès que tu le vois, il faut se battre contre lui. Et donc, il va lui faire un rappel. Les deux sont valables, ça reste quand même une couverture vaccinale. Les deux sauvent des vies. Et concernant le recul que nous avons, allez, quand bien même, allez, je vais être très politiquement incorrect. Ce que tu disais, Pierrot, concernant la vaccination, parce qu'on a des vaccins classiques, pourquoi les gens ne se font pas vacciner ? Je pose la question. Au-delà des vaccins ARN, vous avez les vaccins classiques. Pourquoi les gens ne vont pas se faire vacciner si effectivement il y a une suspicion par rapport à l'élaboration des vaccins, des nouvelles vaccinations. La question est posée. Ils ont qu'à aller se faire vacciner puisqu'on est sur des vaccins classiques au même titre que les vaccins, les 11 vaccins dont tu parlais. Donc encore une fois, on est plus sur une contestation, sans faire le politologue, qui naît d'une idéologie politique, quelle que soit la tendance, parce que je ne vais pas non plus poser une étiquette sur le front d'une personne, je ne me targuerai pas de le faire. Mais on est plus sur la prolongation de mouvement, la prolongation de contestation, que réellement sur les des contestations liées aux antivax. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, et c'est ce qui m'interpelle le plus, c'est la population des QPV. La population des QPV, pour moi, au regard des personnes qui occupent les lits de réanimation, se doit soit de faire attention, dans la mesure où elle est en capacité de le faire. Et c'est pour ça que nous, très rapidement, on proposait du gel hydroalcoolique, des masques et depuis peu des autotests. Parce que pour nous, c'est important quand même, on parle du virus, c'est quelque chose de manuporté, c'est quelque chose dans l'air. Ben, c'est important de pouvoir se protéger et de faire en sorte de ne pas se contaminer. Donc on continue à le faire parce que c'est important que les gens puissent avoir du gel, des masques, et depuis peu des autotests, on leur montre quand même comment se tester. Et on continue, et je remercie quand même tous les acteurs qui sont autour de la table, premièrement pour votre confiance, parce qu'à plusieurs reprises, des initiatives ont été lancées, que ce soit au niveau du centre social L'Agora, que ce soit au niveau du groupe de veille, que ce soit au comité Maméga, que ce soit aussi au niveau de Sheba, vous nous avez toujours ouvert la porte. Et on a pu, par votre biais, faire passer ce message. Et c'est important parce que si le Covid tue, le manque d'informations tue. Et la prévention fait en sorte qu'on évite aux gens d'aller en réanimation. Il faut voir les médecins hospitaliers, que ce soit le professeur Jouve ou d'autres, l'interpellation qu'ils nous font, ils nous disent « foncez, on va arriver au niveau de saturation et on va devoir choisir entre tel et tel patient ». On ne veut pas arriver à ça parce que c'est moralement terrible. Et donc nous, on est vraiment des pompiers du Covid. Quand je dis « nous », j'inclus tous les acteurs associatifs, toutes les personnes qui veulent participer, faire en sorte de transmettre pardon, cette information. Et encore une fois, on est prêt à travailler le samedi, le dimanche, on l'a prouvé. En tout cas, vous avez autour de cette association des médiatrices et des médiateurs qui sont de très très bonne volonté, qui ont envie de travailler, qui sont disponibles, qui accompagnent des malades à domicile. On a plus de 22 infirmiers qui nous accompagnent, 7 médecins urgentistes qui nous accompagnent. Les quartiers ne sont pas laissés, en tout cas nous on continue, on les accompagne parce qu'on les aime, on fait partie de ces territoires-là, au-dessus du comité Maméga, il y a mon papa, il y a ma maman. Voilà, donc je ne veux pas voir les drames que j'ai vus, des enfants pleurer leur père, les voir auprès de d'autres familles. Donc encore une fois, j'invite toutes les associations qui sont autour du Grand Saint-Barthélemy et au-delà à nous inviter à faire des tables de quartier, à discuter. On va plus, on est arrivé sur une conclusion que la vaccination de masse est terminée. Les vaccinodromes, tu parlais des sports, vont pas tarder à fermer d'ici 2 mois, 3 mois. Ils se rendent compte qu'on est arrivé dans un palier où toutes les personnes qui souhaitaient se faire vacciner l'ont été. Le 8e arrondissement, quand même, 68% de couverture vaccinale. On est bien d'accord que dans le 8e arrondissement, ils ne vivent pas à 3000 dans une tour. Je ne dénigre pas les gens du 8e, loin de là. Mais il faudrait qu'on fasse vraiment du corps à corps avec les gens pour leur expliquer, les prendre, discuter avec eux, voir quelles sont leurs craintes, voir quels sont les freins, et essayer d'apporter des solutions, essayer d'apporter de l'information et essayer de les rassurer. Et c'est ce qu'on va faire pendant toute cette période. Parce que je pense que les 3 mois qui vont arriver vont être cruciaux pour nos territoires. 90% des personnes issues de nos territoires en réanimation, c'est tout juste inacceptable.
Oui, Anne-Marie.
Juste, moi je me rends compte en t'écoutant, j'ai déjà assisté pas mal à des choses, mais d'abord qu'on apprend beaucoup de choses. Et puis surtout qu'on apprend à construire un argumentaire. Et moi, je trouve que je m'aperçois certainement que les gens qui résistent au vaccin, si c'est moi, par exemple, qui vais tenir les propos, il y a moins d'écoute et moins de légitimité qu'effectivement si c'est des gens comme vous qui êtes au charbon toute la journée, qui avaient des exemples, qui avaient, tu vois, qui peut donner. C'est pour ça que malgré tout, je pense que le fait là, on va travailler là-dessus, en tous les cas au niveau du centre social, c'est de créer une, voire plusieurs rencontres publiques, parce qu'il faut que le débat et la confrontation aient lieu. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé dommage que les personnes que j'ai sollicitées aujourd'hui, je sentais qu'il y avait de la résistance. Bon, il y en a une qui est malade, donc on va l'excuser, à venir exposer ses positions, ce qui est déjà un peu différent des endroits où c'est les gens qui confisquent la parole, c'est ceux qui sont contre le vaccin et qui interdisent aux autres d'exprimer s'ils sont pour. Mais là, on est sur ce quartier, visiblement, sur quelque chose qui s'exprime dans les couloirs, qui s'exprime en vis-à-vis, mais qui a plus de mal à, je ne dis pas à exploser, mais en tous les cas, à être dite publiquement. Donc, il va y avoir besoin de ces rencontres, parce que je pense que peut-être aussi, nous, je le dis humblement, au niveau du centre social, on avait partie certainement de ceux aussi qui avaient considéré que bon, l'information allait circuler maintenant, que c'était bon, que les gens ils allaient y aller. Et tout ce que tu nous dis aujourd'hui, je pense que c'est important qu'on prenne conscience qu'il faut y aller de tous les côtés, quoi. Est-ce que vous aurez les moyens de répondre à toutes les sollicitations? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de structures qui font ce que vous faites aussi. Hein, ce que fait 7. Mm-hmm.
Sur ce qu'on fait...
Vous êtes les seuls, non?
Alors, il y a les collègues de Coresan qui font aussi. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. Coresan, c'est l'hôpital européen qui sont dans le 9e, du 1er au 8e arrondissement. Bah, très simplement et très humblement, on est seuls, dans nos territoires en tout cas, mais on a demandé des renforts. J'étais en discussion hier avec la direction de l'hôpital de la PHM, pardon. Et donc, ils nous ont dit qu'ils sont prêts à nous mettre à disposition des médecins à la retraite, des personnes qui pourraient venir derrière renforcer nos propos. Donc maintenant, nos médiatrices et nos médiateurs seront systématiquement accompagnés d'un professionnel de santé à la retraite ou en activité. Donc oui, oui, oui et oui à ce que tu m'as demandé. On est en capacité et on se doit d'être en capacité. On est en train de travailler un documentaire d'une dizaine de minutes dans lequel on aura la parole, déjà l'explication par rapport à toutes les questions que vous me posiez sur les différents types de vaccins. Ensuite, donc faire de la pédagogie. Ensuite, la parole d'un médecin de ville qui dit le quotidien qu'il a au niveau de la Covid. Donc pour le coup, c'est le docteur Sima Didi qui est le médecin coordinateur de 7 qui va prendre la parole. La parole d'un médecin réanimateur, soit de l'hôpital européen, soit de l'hôpital Nord ou de l'hôpital Latimone. Donc on est en train de voir comment on peut travailler pour qu'ils puissent dire aussi le quotidien des urgences et des médecins hospitaliers qui voient des personnes arriver. Et puis la parole d'une personne vaccinée et d'une personne non vaccinée. Ce que tu disais tout à l'heure, Saïd, sur le monsieur qui regrettait de ne pas s'être vacciné, on en a des tonnes de témoignages où les gens, après coup, se disent finalement, si j'avais su, si j'avais pu. Et même des gens qui, malheureusement, ont transmis le virus à des parents qui sont malheureusement décédés. Et donc là, c'est une plaie qui ne se refermera jamais. Les gens, il faut qu'ils apprennent à vivre cette culpabilité. Et franchement, je souhaite ça à personne. Donc, on est en train de travailler ce document pour après discuter, dialoguer, échanger. Et moi, je suis pour l'échange, je suis pour le débat contradictoire, je suis pour l'interpellation, je suis pour même dire, à des moments donnés, je ne sais pas. Je n'ai pas honte de dire je ne sais pas. Par contre, sur des éléments dont je sais, ben, je peux me permettre d'avancer parce que les chiffres corrèlent ce qu'on dit. Encore une fois, quand vous avez des personnes issues de nos territoires qui font malheureusement les beaux jours de la réanimation, et lors de la première vague de Covid, c'est la Seine-Saint-Denis, et notamment les QPV de Seine-Saint-Denis, et c'est des chiffres de l'INSEE, qui sont le plus morts. Et c'était des personnes qui avaient des caissières, des femmes de ménage, des pauvres gens, malheureusement, qui n'avaient pas une fonction, qui n'avaient pas la possibilité de faire du télétravail, qui sont morts, qui sont décédés. Donc c'est une réalité, la pauvreté, encore une fois, tue.
Oui, ce qu'on appelait les travailleurs en première ligne.
Exactement.
Les moins considérés.
Exactement. Donc ce sont ces personnes-là qui, malheureusement, sont décédées, c'est des chiffres. Alors moi, effectivement, auprès des antivax, je leur dis, c'est là, ces personnes-là, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous dites? Et encore une fois, nos secteurs sont impactés malheureusement, il faut que ça cesse. Voilà. Il faut que tout le monde se retrousse les manches, chacun, à titre individuel, à titre collectif, et nous on est prêts à faire des réunions animées de manière collégiale, soit autour du groupe de veille, soit autour d'autres associations, pour derrière voir comment on peut élaborer une stratégie collective, et ça c'est important, et territorialisée. Les territoires ne se ressemblent pas, et il faut faire avec les acteurs des différents territoires. C'est une proposition que je lance.
Oui. Nous avons un hôpital de proximité, l'Aveyron. Est-ce qu'il y a un travail qui se déroule avec cet hôpital qui...
Alors, l'Aveyron...
ressortir de mal passé.
L'Aveyron prend sa part au titre d'hôpital de proximité pour les urgences. Pour la vaccination, on prend sa part aussi. Bon, il y a des freins périphériques à se faire vacciner à l'Aveyron parce qu'il faut prendre rendez-vous. Après, c'est une question d'organisation et c'est une question de non-perte de doses vaccinales, sûrement. En ce qui nous concerne, si l'Aveyron n'était pas là, on ne serait pas en capacité, on ne va pas se mentir, de répondre à la demande en matière vaccinale. Dans notre stratégie, on va vacciner vraiment les personnes qui sont isolées, en pied d'immeuble, là où personne ne va, les zones blanches. Là où même... les zones blanches médicales, hein, je précise. Là où même SOS Médecins ne va pas. La Castellane, SOS Médecins ne va pas. On y va. Heureusement, pour l'instant, la Busserine, c'est pas le cas. Mais la Paternelle, les Rosiers, des endroits où, malheureusement, plus personne ne va du fait des problèmes liés à l'insécurité. Donc nous, on va vacciner à domicile des personnes isolées à domicile, des personnes âgées qui ne peuvent pas être transportées, des personnes qui n'ont pas de papier. On les oublie. Des personnes qui sont à domicile et qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas la possibilité d'être transportées, qui vivent au quatrième étage. On a vu une jeune autiste, sans papier, qui pêcheur avait, et vous le voyez sur le reportage, ne pouvait pas être transportée parce qu'elle se faisait du mal à elle-même et sa maman restait, vivait avec elle en permanence à la maison. Et sa maman a eu la Covid, elle a eu peur pour sa fille, et sa fille qui a 22 ans, donc on a été la vacciner. Encore une fois, on essaie d'être au service de tout le monde. On n'est pas des vendeurs de poison, on n'est pas des lobbyistes, on est simplement des gens, des personnes qui aimons la population. Mes médiatrices et mes médiateurs sont issus de ces territoires, connaissent ces territoires et vivent dans ces territoires.
Merci Yazid. Je sais que tu dois y aller. Merci pour ta gentillesse et le temps que tu nous as accordé. On va faire une autre respiration musicale avec le morceau du demain.
Il a fallu en arriver là pour nous rassembler, prendre conscience de l'importance de l'humanité. Ce combat, c'est le monde entier qui doit le mener. Car y a pas de couleur, ni de religion pour être confiné. sacrifient leur vie au nom de notre santé. Ces mêmes qui criaient dans la rue, venez nous aider. Et demain, on fera quoi? On recommencera, l'homme est comme ça. Et demain, ce sera nous, les maîtres du jeu, un point c'est tout. S'aimer encore, danser encore, sourire encore, s'embrasser plus fort.
Nous sommes toujours sur les ondes de Radio Galère et nous sommes en direct des échos du Grand Saint-Barthélemy. Pierrot, deux mots sur la situation aux Antilles ?
Oui, deux mots, même trois. Yazid, de toute façon, a donné bien le contour de la problématique. Quand on dit que 90% de ceux qui sont hospitalisés sont des personnes des quartiers prioritaires, des quartiers populaires, chez nous c'est 100%. Quand il parle de la fracture sociale, quand il parle de la pauvreté, quand il parle de manque de moyens, en Guadeloupe, on attend toujours la reconstruction de l'hôpital qui a pris feu il y a 5 ans. Ouais. Donc ce manque de moyens, tout ce qui a été dit est tout à fait transposable par rapport à la situation en Guadeloupe. Il y a aussi les anti-vaccins politiques. Il ne faut pas oublier que la Guadeloupe, nous sommes quand même sur des problématiques de revendication politique, d'autonomie et d'indépendance. Donc il y a aussi tout ce volet-là d'anti-vaccins. Mais même ce groupe-là a tendance à se fracturer, parce que j'ai entendu l'autre jour Luc Reynette, un ancien du Gong, un ancien des mouvements indépendantistes, etc., prendre un peu de distance avec ce que dit l'UPLG et demander à ce que la population aille se faire vacciner rapidement. Il y a des grands professeurs, il y a des grands politiques qui ont pris parti pour que les personnes aillent se faire vacciner. C'est par exemple Serge Romana du mouvement de 98, etc. Donc, cette partie de réfractaires politiques, j'allais dire, ce ne sont pas les mêmes qu'ici. Hein. Ici, ça bouge surtout du côté de l'extrême droite. Chez nous, en Guadeloupe, c'est plutôt les mouvements d'extrême gauche, les mouvements indépendantistes qui sont un peu réfractaires. Alors, pas tant aux antivax, parce que même les antivax, on a beaucoup employé le terme antivax, mais ils sont en train de... non pas de changer de fusil d'épaule, mais de glisser sémantiquement. Hein. Ce ne sont plus des anti-vax, ce sont des anti-passes sanitaires. Ce n'est pas la même chose. Hein. Des anti... voilà. Donc, sur la méconnaissance des publics, la méfiance, etc., ça existe aussi aux Antilles. Deuxième volet, c'est le volet politique. Et troisième volet, il ne faut pas oublier que les Antilles... ont déjà subi et subissent encore des catastrophes sanitaires. c'est le problème de la chlordécone. Donc, chat échaudé craint l'eau froide. Il y a beaucoup ce mouvement en disant sur les affaires sanitaires, etc. Les Antilles sont oubliées. Les Antilles, c'est la dernière roue de la charrette. Et donc, il y a tout ce mouvement en disant on ne va plus nous y reprendre parce que nous, on continue à subir les effets des multinationales, on continue à subir les effets des médicaments chimiques, etc. Voilà, il y a ces trois mouvements. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que, comme ici, il y a un mouvement de retour à la vaccination. S'il y a 15 jours, nous en étions, je parle de deuxième dose, peut-être à 15%, maintenant ce taux de vaccination augmente très sensiblement, peine toujours, mais atteint les 35%. Et puis, pour conclure, nous avons aussi subi 4 vagues aux Antilles. Il faut dire que les 3 premières vagues, en taux d'incidence et en taux de décès, la courbe était assez faible. Hein, il n'y avait pas beaucoup de cas. Les cas ont explosé à partir de ce mois d'août et à partir de ce fameux variant Delta. La semaine dernière, je ne parle, mais les chiffres doivent être à peu près les mêmes pour la Martinique. La semaine dernière, il y avait 65 morts pour une île pour une île à 450 000 habitants. Donc c'est tout à fait énorme. Donc voilà, j'ai donné les points de ressemblance qui sont, il y en a beaucoup, bien sûr, pauvreté, fracture sociale, etc. Et puis il y a peut-être un dernier. Alors, je ne sais pas si cela se passe ici, mais chez nous aussi, il y a beaucoup de croyances. Je ne parle pas de mysticisme, je ne parle pas de vaudou, je ne parle pas de croyances religieuses, mais de croyances aux médications locales, c'est-à-dire aux herbes, aux baumes, aux... que je ne parlerai pas de Rome, mais etc. Donc, il y a aussi cette partie de la population. Et quelquefois, dans les analyses, on a dit que ça a permis aussi à ce que les personnes aillent moins rapidement à l'hôpital. Parce qu'on a ce fameux zèbre à pic dont on en a entendu parler même à l'Assemblée nationale. Bien, ça fait tomber la fièvre, etc. Donc quelqu'un qui a la fièvre et qui est soupçonné de cas de Covid va prendre peu de temps avant d'aller à l'hôpital. Parce qu'il y aura cet effet de la médication qui ne va pas guérir de Covid, mais qui va atténuer un peu les effets. Et puis ça va repartir à la hausse après. En tout cas, la situation reste toujours critique, etc. Les morgues sont saturées. La semaine dernière, on a ouvert 2 morgues de campagne à au seul hôpital de Capesterre. Je pense qu'au CHU de Pointe-à-Pitre, c'est la même chose, et au CHU de Martinique, c'est la même chose aussi. Petit point d'espoir, donc ce virus a été un véritable fléau, et comme Attila a tout rayé sur son passage, les derniers chiffres de cette semaine, les taux d'incidence sont en baisse, faiblement, et on aurait atteint certainement ce plateau, mais des plateaux, on en a déjà vu 4. Il n'est pas dit qu'on n'en voit pas d'autres. La crainte, mais ça a été dit tout à l'heure par Saïd, c'est la rentrée scolaire qui a été retardée. Et puis, on attendra, Yazid l'a dit aussi, concernant nos territoires, on attendra les 3 prochains mois qui viennent, et la vigilance doit être redoublée et de mise.
Pour revenir à ce qui est peut-être commun entre ici et aux Antilles, c'est l'idée du manque de confiance, de la méfiance par rapport à l'État, sans parler du gouvernement actuel.
C'est oui,
du sang contaminé.
Sang contaminé, la chlordécone, etc., bien sûr. Oui.
Et pour les gens d'un peu plus loin, c'est les essais nucléaires. Je veux dire, combien de dizaines d'années, on leur dit « mais non, on ne sait rien, mais non, on ne sait rien ».
Oui, oui, tu as tout à fait raison, et il faut qu'on mette tout ce que tu as de dire dans ce package-là, parce que c'est vrai aussi que les cas en Polynésie ont doublé aussi, etc. Il y a une méfiance vis-à-vis de la France, donc appelle la métropole, vis-à-vis de la France, c'est vrai qu'il y a eu des catastrophes sanitaires, il y a eu des catastrophes écologiques, il y a eu des catastrophes, etc., dont les habitants d'outre-mer, alors des 6 ou 7 coins du monde, ont eu à subir les contre-coups, et ça double la méfiance aussi vis-à-vis de ce vaccin, c'est vrai.
Donc Yazid Atala nous a quittés, mais si vous avez besoin de rentrer en contact avec un membre de l'équipe de 7, vous pouvez le contacter au 07 49 80 95 60 ou par mail en écrivant à contact@7-6asso.com. Donc on a laissé un Atala pour en parler dans un second. Donc le second Atala, c'est André Atala, qui est médecin cardiologue à la mairie de Basse-Terre et vice-président de la Fédération hospitalière de Guadeloupe. Donc, il fait partie des personnalités qui ont signé une pétition s'intitulant « Appel à signature citoyenne pour la vaccination du plus grand nombre », dont un petit extrait va nous être lu par Anne-Marie.
Et autres menaces haineuses.
Ce que tu viens de lire, c'est bien cet appel dont je faisais allusion tout à l'heure, qui a été signé par beaucoup de médecins, par beaucoup d'intellectuels et beaucoup d'anonymes. Peut-être pourrait-on, alors à notre échelle, nous en inspirer pour lancer un tel appel et faire signer un tel appel par des médecins, par des responsables politiques, des vrais, des membres associatifs, etc., à l'échelle de notre territoire.
Donc je pense qu'on va lancer encore une respiration musicale avec le morceau de Sin Semilla, Tout le bord du monde, avec un petit peu une lueur d'espoir peut-être.
On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain, comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir. Puisqu'on ne sera pas toujours là comme on le fut au premier pas, on vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, votre soleil éclaircisse l'ombre, qui brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout, sûrement tant de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qui brille d'amour au quotidien. Je sais pas quel monde on vous laissera, on fait notre mieux seulement parfois, j'ose espérer que cela suffira, pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour elle, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain,
que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh oui, tout le bonheur du monde. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde.
Toujours en direct des Échos du Grand Saint-Barthélemy sur Radio Galère. Je remercie d'ores et déjà nos invités Anne-Marie Tagawa, Pierre Lézot et Yazid, même bien qu'ils soient partis. Et nous allons passer sur la partie des communiqués de presse. Donc, je sais plus.
Alors, une bonne nouvelle quand même. La Nouvelle-Zélande qui a reconnu de manière officielle la langue de la culture maori, donc la langue des premiers peuples qui vivaient sur place et qui ont, avant la colonisation. L'Allemagne aussi qui a fait un geste important, qui a reconnu les génocides des Herero, des Nanak. C'était le premier génocide du XXe siècle. Récemment, je crois que c'était hier, une statue a été déboulonnée, c'est celle du général Lee. C'est donc le général qui était... esclavagiste dans le sud américain. Le sud américain. Sinon, il y a des choses qui se préparent pour bientôt, donc pour le mois prochain, octobre. Donc, tout le monde connaît l'histoire du 17 octobre 61, donc une manifestation des Algériens contre le couvre-feu. C'est donc pendant la colonisation. Et là, à ce moment-là, donc, le préfet Papon avait laissé la bride libre aux policiers qui ont fait des dizaines, voire des centaines de morts, qui, entre autres, qui ont été jetés dans la Seine. Et donc, c'était en 61, nous sommes en 2021, donc ça fait 60 ans. Et donc, dans un certain nombre de villes de France, des collectifs sont allés rencontrer les maires pour demander que, d'une manière ou d'une autre, cet événement soit rappelé, soit par exemple par une motion du conseil municipal, soit une plaque, etc. Pour ce qui concerne Marseille, donc il va y avoir plusieurs événements pendant ce mois d'octobre. Le 16 octobre, il y aura à l'Alcazar une conférence d'un historien, Dao Gerbal, qui parlera de cette période-là. Ensuite, il y aura aussi des ateliers dans des lycées pour essayer de comprendre ce qui s'est passé cette période-là. Le 17 octobre, c'est-à-dire le jour anniversaire, ce sera un rassemblement public qui se fera donc au Vieux-Port. Donc tout ce que je dis là n'est pas encore officiel, donc les choses vont se faire dans la semaine. Et enfin, le 23 octobre, il y aura un film qui est un peu inédit à Marseille, c'est Les balles du 14 juillet 1953. C'est quelque chose aussi que je ne connaissais pas, pourtant je suis de l'actualité, je lis un peu de livres d'histoire. Donc 1953, donc 14 juillet, comme d'habitude, il y avait la fête, les balles. Et le titre Les balles du 14 juillet, c'est B-A-2-L-E-S. Et donc Là aussi, la police a tiré sur des Algériens qui osaient parler d'indépendance.
Voilà. Donc, je continue avec une actualité, celle de la librairie Transit, qui organise une soirée Claude Maquet avec les éditions Héliotropisme le mardi 14 septembre 2021 à 20h au Vidéodrome, qui se trouve 49 cours Julien, dans le 6e arrondissement de Marseille. Il y aura la présentation du livre « Romance in Marseille » avec Renaud Bouc et Jean-Max Guieu. Donc, ce livre a été écrit en 1932 à Tanger. Et à travers ce livre, le lecteur suit les mésaventures de Lafala, un docker ouest-africain qui revient à Marseille après avoir été dépouillé de tout son argent par la belle Aslima. Il y aura également la projection du film « Un sacré bout de chemin ». Claude Maquet de Harlem à Marseille, de Mathieu Verdaille en sa présence. Ce film est un voyage dans les années 20, de Marseille à Harlem, en passant par Moscou et Berlin, sur les traces de l'écrivain jamaïcain-américain Claude Maquet. Donc le tarif, c'est une adhésion au Vidéodrome qui se monte à 5 euros et une participation aux frais de 3 euros. Maintenant, je vais passer la parole à Anne-Marie pour nous parler un petit peu de l'actualité sur le territoire.
Oui, ça marche là. Là, ça marche. Ouais, j'ai appuyé mieux. Bon, sur l'actualité du territoire, ben, nous allons faire la rentrée du groupe de veille d'ici peu de temps, avec toutes les associations. D'une part, l'été a été quand même chargé en activités, actions, animations, soirées festives importantes. Je crois que ça a été un été... les habitants me disaient que ça avait été des bons moments, en fait, que ce soit la guinguette ou les soirées festives, etc. Et que la demande, déjà, pour l'année prochaine, c'est que ça ne s'arrête pas au milieu du mois d'août, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui est énormément développé pendant l'été, surtout quand on sait l'actualité un peu tendue, anxiogène sur nos quartiers. Là, le fait qu'à partir du 10 août, grosso modo, il y ait beaucoup moins de choses, bien entendu, parce que les gens ont le droit de partir aussi en congé, mais du coup, il faudrait peut-être travailler là-dessus pour l'année à venir et éviter de laisser une zone entière dans le temps qui soit sans action. Sur la rentrée du groupe de veille, ben, les deux gros dossiers qui vont être à travailler, c'est celui de la propreté, bien entendu, et de l'entretien du quartier. Tout le monde a remarqué, au moment de la venue de notre président à Marseille, le nettoyage du quartier et du mail en particulier, qui a été assez notoire, au point que tout le monde se demandait s'il n'allait pas venir ici. Et il y a une demande forte de rencontrer la métropole pour acter un positionnement sur un cahier des charges à mettre en œuvre sur ce territoire, parce que ça devient à des moments donnés plus qu'insalubre. Je vous invite, si vous ne passez pas par là, à regarder ce qui se passe sur la plaine des loisirs en bas, sur le terrain qui jouxte l'Agora, et où c'est une décharge publique à ciel ouvert qui est aujourd'hui laissée totalement à l'abandon jusqu'au prochain, à l'ouverture des travaux, dont on n'a pas encore la date ni le calendrier. Voilà, deuxième dossier important, la crèche de l'œuf. Nous savons que nous sommes sur une année charnière, c'est-à-dire que suite à toute la bataille qui a été menée par le groupe de veille et le Conseil citoyen sur l'ouverture de la crèche, aujourd'hui, je crois qu'on n'a jamais dit, en tous les cas officiellement, c'est l'association Léo Lagrange qui a été désignée pour être porteur du nouveau projet et qui, devant la commission qui les ont auditionnés, a été parmi les quatre structures qui se présentaient la plus performante, de par leur expérience et le projet qu'ils voulaient mettre en place. Donc la responsable de Léo Lagrange m'a dit qu'elle souhaitait à un moment ou à un autre rencontrer les acteurs du groupe de veille pour travailler sur le projet, sur le suivi de l'action, et y compris sur les modalités de recrutement du personnel. Voilà. Et la commission Petite Enfance, qui va être réunie d'ici une quinzaine de jours, avec tous les acteurs institutionnels, va aussi acter, je pense, un calendrier sur le démarrage des travaux. On sait que c'est long, mais en tous les cas, le jour où il y aura la première pierre, on fera une grande fête avec les habitants et les associations pour déclarer l'ouverture. Voilà, sur l'actualité actuelle, sur la création... Alors, le centre social Agora, les travaux ont pris, vous en doutez, ils avaient été annoncés dès cet été, donc ils ont pris du retard. Ce qui fait que, parce que l'été, ça se saurait si les entreprises travaillaient. Et du coup, ben, ça a à peine démarré, les premiers coups sur le mur ont démarré la semaine dernière. Ça nous a mis dans une situation un peu difficile, parce que du coup, hébergés dans les locaux de la Croix de l'œuf, où nous ne pouvons pas faire de l'accueil, ben, on est en train de travailler sur une délocalisation de la plupart des activités qui accueillent du public. Une convention est maintenue entre l'Agora et HMP sur la crèche de l'œuf pour avoir un lieu de réunion d'équipe, de services administratifs, on va dire. Et surtout, avec Arc-en-Ciel et Marseille-Nord-Handball, éviter que ces locaux soient vides jusqu'au démarrage des travaux, parce qu'on craint bien entendu des squats et des dégradations. Voilà. Donc ça, c'est une chose importante. L'autre chose, c'est... la création d'une nouvelle association qui avait déjà annoncé sa création, le GSBO, voilà, qui en fait s'est créé avant l'été, regroupe pas mal de monde et surtout prend l'initiative d'activités un peu nouvelles, dont le VTT, qui sont des activités qui n'existaient pas jusqu'à maintenant. Donc ils ont lancé, je vais te laisser préciser peut-être leur calendrier, mais du coup ils sont assez réactifs. Ils font leur réunion dans les locaux de Passerelle parce qu'ils attendent des locaux. Ils espèrent avoir assez rapidement. Et voilà, ils sont tout à fait opérationnels. Et il y a pas mal de jeunes habitants de ce territoire qui, depuis longtemps, sont sur les activités sportives, mais aussi citoyennes, sociales, etc., qui se sont inscrits dans ce club Omnisport.
Exactement. Donc, au niveau de la programmation du Grand Saint-Barthélemy Omnisport, déjà, ils sont intervenus tout l'été dans le cadre des Olympiades des quartiers populaires de Marseille. Mais là, dans les jours qui viennent, ils organisent des journées découvertes. Donc effectivement, il y a eu une journée hier. C'était une journée découverte du football qui s'est déroulée au 343 boulevard Daniel Casanova sur le stade du Canet Floride. La seconde journée aura lieu lundi 13 et c'est à partir de 18h. Sinon, ils ont également une activité de judo. Donc c'est quand même, moi, il me semble que sur le territoire, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de judo. Bon, il y a effectivement des sports de combat, mais du judo, il me semble qu'il n'y en a pas ou qu'il n'y en a plus depuis longtemps. Donc il y a deux jours de découverte qui sont le mercredi 15 et le 22 septembre à partir de 14h. Et ça se déroulera au gymnase de la Busserine. Et il y a également l'activité VTT dont tu nous parlais. Donc là, il y aura une journée le samedi 18 et une journée le 25 septembre à partir de 10h. Par contre, il y a une petite spécificité, c'est qu'il faut venir avec son vélo. Voilà. Parce qu'il n'y a pas assez de vélos pour tout le monde, malheureusement. Et on a bien vu que pendant ces périodes de confinement, le vélo, c'est une problématique importante. Impossible de trouver des vélos, en tout cas neufs. Après, ça a fait l'affaire de gens qui vendaient leurs vélos à des tarifs exorbitants sur le Bon Coin, mais des vélos neufs, ça a été compliqué. Sinon, une petite information autour de la programmation du ZEF. Donc le 25 septembre 2020 à 20h30, il y aura une rencontre apéro, projection et happening itinérant. Une soirée en deux parties. 18h30, entrée libre, citronnade, déambulation au jardin de la gare Franche. Et à 20h30, sur réservation, au 04 91 11 19 20, à l'usine de la gare Franche. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça signifie, mais apparemment, ce que j'ai compris, c'est de la danse. C'est reprise des activités de danse, d'accord. Et du 29 au 30 septembre, au Théâtre L'Étang, la mise en scène explore ce malaise, les liens paradoxaux, l'inconscient et le conscient qui relient l'enfant à sa mère. On est sur un fil oscillant entre la normalité et la folie, si déjantée et sismique. Voilà. Sinon, une petite particularité pour nous, c'est que donc, le 26 septembre, il y aura une émission, c'est un samedi après-midi, et cette émission sera en direct, justement, d'un des moments forts de ces Olympiades du 13, parce qu'initialement c'était 13-14e, mais bon, maintenant c'est devenu les quartiers populaire de Marseille, donc ça s'est élargi. Il y aura une émission en direct de Fontainebleau, puisque vous êtes les bienvenus d'ailleurs pour assister aux finales des Olympiades qui auront lieu à Fontainebleau les 25 et 26 septembre. En tout cas, je ne vais pas oublier de remercier Sidi cette fois-ci. Merci Sidi, merci Farid, merci à toute l'équipe technique. Et on va, et oui, sans oublier les financeurs, n'est-ce pas? Le conseil départemental, les services de la politique de la ville, aussi bien au niveau de l'État que de la métropole. Et on va se quitter sur un morceau, celui de Soul King et Liberté.
Ils ont cru qu'on avait peur de se passer tout noir. a plus personne que des photos, des mensonges, que des pensées qui nous rangent. C'est bon, emmenez-moi là-bas. Oui, il n'y a plus personne là-bas, il n'y a que le peuple. Che Guevara, Marx.